On va continuer à parler d'amour ce matin. Peut-être que les jeunes amoureux sont tout contents. Puis les vieux couples disent « c'est une fête commerciale ». Ça nous arrange bien, hein, quelquefois. Alors c'est vrai, ce matin, on va continuer à parler d'amour. Le titre de mon message, « Aimer encore un peu plus ». Je vais vous défier un peu l'amour. C'est tellement essentiel. Et ce matin, j'aimerais vous parler donc pas d'un amour de Saint-Valentin, j'aimerais pas vous parler d'un sentiment amoureux, j'aimerais vous parler du vrai amour, de l'amour de Dieu. La première chose qui est importante de saisir, et parfois on a tendance à oublier, c'est que Dieu est amour. Dieu n'a pas seulement de l'amour, mais il est amour. C'est dans son être. L'amour fait partie de ses attributs. Il est amour, il est la source de l'amour. Ainsi, tout ce que Dieu fait, c'est toujours en lien avec l'amour, avec son amour. C'est logique, vu que ça fait partie de lui. Il ne peut pas enlever l'amour. Ce n'est pas quelque chose qui est juste comme ça, qu'il prend puis qu'il utilise. Mais il est, c'est dans son être. On pourrait donner d'autres attributs à Jésus, il y en a beaucoup à Dieu. Il y a la justice. Dieu est justice, par exemple. Ainsi, il agit toujours avec amour, mais il agit toujours aussi avec justice. Puis on peut ajouter d'autres choses, les fidèles, il y a la patience, la bienveillance. Mais Dieu ne peut pas se renier lui-même, et ça c'est important de bien le saisir. Donc pour Dieu, il n'y a pas de barrière à l'amour, il n'y a pas barrière à son amour. Il aime sans condition, il aime tous les hommes. Il nous aime au point de sacrifier son propre Fils pour nous. Alors vous avez entendu peut-être qu'il y aura l'action Jean 3,16, ça a passé dans les journaux. Jean 3,16, c'est un verset bien connu, mais le but est de faire connaître justement cet amour de Dieu au monde. Cet amour de Dieu qui est pour tous, on veut le faire connaître. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde. Il continue de le faire. Il est amour. Alors Dieu ne souhaite pas que nous prenions un peu de son amour et que nous l'utilisions. Il désire plus pour nous. Il désire qu'au travers de Jésus-Christ qui vit en nous par son esprit, nous soyons amour comme lui est amour. Donc ce n'est pas « je prends un petit peu de ce que Dieu me donne puis je l'utilise ». Non, pas que nous prenions un petit peu et puis que nous utilisions, mais quelque chose qui transforme notre cœur. Jésus va dire « comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres ». Jean 13, 34. Et puis dans sa prière au Père, dans Jean 17, Jésus va dire quelque chose de très fort. Il dit « Je leur ai fait connaître ton nom », donc Jean 17, 26, « Je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître encore, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que moi je sois en eux. » D'accord ? Donc cet amour doit être en nous. Vous savez tous que l'Évangile nous parle d'une nouvelle naissance. C'est merveilleux. L'Évangile, une nouvelle naissance. Savez-vous que dans le processus naturel, lors de la division cellulaire, il y a un phénomène génétique qu'on appelle « crossing over ». Il y en a qui ont fait un peu de biologie, ça vous dit quelque chose, « crossing over ». En fait, c'est quoi? C'est qu'on prend N chromosomes du papa, N chromosomes de la maman dans une cellule chacune, puis on met ça ensemble. Et puis, ça va former deux N chromosomes. Vous savez, en effet, de deux N, nos cellules sont des cellules deux N chromosomes. Alors ces chromosomes de papa et de maman vont faire un crossing over, elles vont se mixer, elles vont s'enjamber, on pourrait dire en termes français, elles vont s'enjamber, et puis c'est ça qui va faire que vous avez votre propre caractère génétique, vous êtes unique, mais vous avez des ressemblances avec votre papa et votre maman. Puis je me suis dit, la nouvelle naissance avec Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est comme si le caractère de Dieu devient petit à petit nôtre, nous devenons enfant de Dieu. Et il y a cette transformation du cœur qui va prendre place afin que ça devienne quelque chose qu'on prend comme ça, mais que ça devienne dans nos gènes. Qu'il y ait une transformation vraiment tout au fond de nous. Donc par son esprit qui vit en nous, il y a tout en nous. On a tout en Christ qui vit en nous. Tout. J'ai envie de dire qu'il y a donc ce gène de l'amour, on pourrait dire. Il y a quelque chose, parce que l'esprit est là en nous. Donc on a l'amour de Dieu pleinement en nous. Évidemment, pour cela, il faut marcher par l'esprit. On est un petit peu des voitures hybrides. Vous savez, on peut mettre l'électrique ou l'essence. Alors nous, on est un petit peu, on peut mettre la chair, on peut mettre l'esprit. Mais il y a tout. Tout est là. Si on choisit de marcher par l'esprit, l'amour de Dieu est là. Alors j'aimerais prendre un premier texte avec vous, dans Matthieu chapitre 5, je lis dans la version second 21. Matthieu 5, les versets 43 à 48. C'est Jésus qui parle, c'est le sermon sur la montagne. Puis il va dire quelque chose qu'on connaît, mais qu'on doit vivre. Jésus dit au verset 43, « Vous avez appris qu'il a été dit, « Tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père céleste. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les collecteurs d'impôts n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les membres des autres peuples n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » Amen. Quel texte. Pour un juif, aimer son prochain, c'était aimer son frère. Aimer celui de son peuple, aimer quelqu'un de sa race, quelqu'un qui peut nous aimer en retour. Mais Jésus vient renverser cela. Voilà le changement que Jésus apporte dans nos vies. Cela est seulement possible à cause de cette transformation au fond de nous. C'est seulement possible lorsque nous devenons fils et filles de Dieu. Et j'aime qu'il soit vraiment écrit « afin d'être les fils de votre Père céleste ». Ça veut dire que vraiment, on doit refléter, on doit ressembler, on doit manifester qui est Dieu pleinement, parce que nous sommes ses enfants. Alors si on vit cela, cet amour devient illimité, sans barrière. L'amour fait partie de nous, car la source de l'amour vit en nous. Et ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Alors ce matin, comme je l'ai dit, j'aimerais vous demander d'aimer encore un peu plus. Je le dis souvent, je l'ai dit ici, je le dis à de nombreux couples qui passent des fois par des difficultés. L'amour, c'est premièrement un choix. L'amour est un engagement. Et je crois que lorsqu'on commence par faire ce choix, lorsqu'on prend l'engagement devant Dieu d'aimer comme lui nous a aimés, c'est alors que la transformation peut vraiment prendre place. Petit à petit, on apprend à marcher par l'esprit et non par la chair. On apprend à utiliser, permettez-moi l'expression, le bon ADN, celui qui vient de Dieu. Mais il faut à un moment donné le choisir. Il faut prendre l'engagement, dire « Ok, on y va ». Encore une fois, alors que c'est pour nos frères et sœurs et que tout se passe bien, on arrive plus ou moins à aimer. C'est encore pas parfait, mais on se débrouille. Pas trop mal. Mais lorsqu'il s'agit d'aimer quelqu'un qui nous a fait du mal, lorsqu'il s'agit d'aimer une personne qui nous a trahis, qui nous a calomniés, une personne qui nous a volés, une personne qui nous a abusés, c'est autre chose. Et c'est là qu'on a tellement besoin de cet amour de Dieu en nous. Dans la plus petite lettre du Nouveau Testament, l'apôtre Paul va justement exhorter un homme à aimer encore un peu plus. Peut-être tout le monde sait quelle est l'histoire la plus petite du Nouveau Testament. Je vous donne le contexte. Un jour, certainement à Éphèse, Paul rencontre un homme du nom de Philémon. C'est un homme riche, un homme influent, qui a des serviteurs, des esclaves. Puis, au travers de Paul, cet homme se convertit. Ça devient un homme généreux, un homme plein d'amour. Il ouvre sa maison, qui se situe à Colosse, pour y accueillir quelques chrétiens et former une église. Paul n'est déjà plus là pour voir cela, il n'a pas le temps de venir dans cette église. Paul continue son voyage et quelques années plus tard, vers l'an 60, Paul est emprisonné à Rome. Il est vraisemblablement dans une résidence surveillée, il peut malgré tout parler de Jésus. Et puis là, il rencontre un autre homme. On ne connaît pas exactement les circonstances, mais Paul rencontre un homme qui s'appelle Onésime. Est-ce que Onésime avait entendu parler de Paul? Peut-être. Dans tous les cas, Onésime est touché, il est touché à son tour et puis il se convertit aussi. Puis là, il commence à avoir de l'affection l'un pour l'autre, il s'apprécie. Onésime commence à rendre des services pour Paul, ça devient un bon collaborateur. Mais voilà que Paul apprend qu'Onésime est un fugitif. Ha ha! Parce qu'il y a beaucoup d'histoires de fugitifs dans la Bible. Hein. Dieu aime les fugitifs. Onésime est un fugitif. C'était un esclave, ou c'est un esclave, qui a volé son maître et qui s'est enfui. Puis voilà que Paul comprend que ce maître, c'est nul autre que Philémon. Ah, imaginez Paul, Philémon! Ah, mais je connais Philémon! Ah ben oui, oh là, je le connais bien. Alors, Paul va dire à Onésime, mais écoute, il faut que tu y retournes. Tu ne peux pas construire ta vie en étant un fugitif. Il faut à un moment donné faire face aux conséquences. Il va falloir faire face à Philémon. C'est souvent comme ça, hein, quand on vit une transformation du cœur, Jésus nous ramène là où on a quitté. Et puis il veut réparer. Il veut qu'on répare, il veut qu'on fasse face à nos vies, à nos choix. Il ne peut pas rester en fuite. Mais Paul lui dit, mais moi je vais lui écrire à Philémon. T'inquiète pas, je vais lui écrire. Ça va bien se passer. Il faut assumer, mais ça va bien se passer, je suis sûr. Je crois de tout mon cœur que tu seras accueilli par Philémon. Et s'il te libère, alors tu pourras revenir vers moi, travailler avec moi. Alors Paul écrit cette lettre à Philémon qu'on va lire maintenant. C'est 25 versets, la lettre à Philémon de Paul. Donc la plus petite lettre de Paul est la seule qui est adressée à une personne en particulier. Et c'est ça qui la rend spéciale. Philémon, chapitre 1, verset 1. De la part de Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et de la part du frère Timothée à Philémon, notre bien-aimé collaborateur, à notre bien-aimé Appia, qui est certainement la femme de Philémon, à Archippe, notre compagnon de combat, et à l'Église qui se réunit dans ta maison. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je dis constamment à mon Dieu toute ma reconnaissance en faisant mention de toi dans mes prières. Car j'entends parler de ta foi dans le Seigneur Jésus et de ton amour pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace et fasse reconnaître tout le bien que nous accomplissons pour la cause de Jésus-Christ. Verset 7, nous éprouvons en effet beaucoup de reconnaissance et de réconfort au sujet de ton amour, car grâce à toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. C'est pourquoi, bien que j'aie en Christ toute liberté de te prescrire ce qui convient, hein, Paul est apôtre, Paul a de l'autorité, il pourrait finalement utiliser son autorité, il dit non, je ne vais pas utiliser mon autorité, c'est au nom de l'amour, verset 9, que je préfère t'adresser une requête. Moi, Paul, qui suis un vieillard, est de plus maintenant un prisonnier de Jésus-Christ. Je t'adresse cette requête à propos de mon enfant, celui qui est devenu mon fils en prison, Onésime. Autrefois, il t'a été inutile, mais maintenant, il nous est bien utile à toi comme à moi. Je te le renvoie et toi, accueille-le, lui qui est une partie de moi-même. J'aurais désiré le garder près de moi pour qu'il me serve à ta place pendant que je suis en prison pour l'Évangile. Mais je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne paraisse pas forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour toujours, non plus comme un esclave, mais mieux encore, comme un frère bien-aimé. Il l'est particulièrement pour moi, il le sera d'autant plus pour toi, dans vos rapports humains et dans le Seigneur. Si donc tu me considères comme ton ami, accueille-le comme si c'était moi. Et s'il t'a fait du tort ou te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main, je te rembourserai sans vouloir te rappeler que toi aussi, tu as une dette envers moi, c'est toi-même. Oui, frère, rends-moi ce service dans le Seigneur. Tranquillise mon cœur en Christ. C'est en comptant sur ton obéissance que je t'ai écrit, sachant que tu feras même plus que je ne demande. En même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. Salutation finale, Epaphras, mon compagnon de tension en Jésus-Christ, te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Demas et Luc, mes collaborateurs, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Qui connaissait très bien cette histoire, cette lettre? Quand même. Elle est belle, cette lettre, non? Une lettre courte, mais il y a tellement à dire dans cette lettre. Et puis, il y a un point que Paul met en évidence dès le début, c'est celui de l'amour. Philémon est décrit comme un homme qui a beaucoup d'amour pour les chrétiens, qui a même cette capacité à rassurer, à tranquilliser les cœurs. Le terme grec va même plus loin, c'est les entrailles. Il vient tranquilliser les entrailles. Il est capable de ça, il a peut-être même un don. C'est un chrétien de valeur, un chrétien mature. Vous savez, ce n'est pas donné à tout le monde de savoir encourager et rassurer. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais il y a des chrétiens, des fois, ils ont le hic pour rajouter une couche. Hein ? Tu n'étais déjà pas rassuré, puis tu leur partages un peu ton malaise. Tu dis, bah, tu sais, j'ai trouvé un emploi, mais il y a ça, je ne suis pas trop sûr. Et puis, tu dis, ah bah oui, bah, je comprends. Hein ? Je comprends que tu ne sois pas rassuré, parce qu'à ta place, moi non plus, je ne serais pas rassuré. Et puis, il y a d'autres qui, au contraire, savent t'apaiser, t'encourager. Mais c'est qui t'a dit ça ? Mais oui, ça va bien se passer. Mais moi, j'ai vécu plein d'expériences, j'ai entendu plein de témoignages où ça se passe très bien. Allez, vas-y, continue. Philémon semble être cet homme-là, un homme de paix, un homme bienveillant. Mais le Saint-Esprit, au travers de cette situation, va lui demander d'aimer encore un peu plus. Un homme plein d'amour, le Saint-Esprit va lui demander, mais fais encore un pas. Et peut-être qu'à plusieurs d'entre vous, vous dites, moi je suis quelqu'un qui a de la facilité à aimer. J'ai l'impression de vivre ça facilement. Peut-être ce matin, le Saint-Esprit te dit, fais encore un pas. Il y a peut-être un domaine où Dieu veut te dire, est-ce que tu es prêt à aller encore un peu plus loin ? Alors Paul dit à Philémon en quelque sorte, bah, c'est très bien tout ce que tu fais, je suis content de qui tu es, c'est magnifique, tu aimes les chrétiens, mais donc je te demande un peu plus. Je vais maintenant appuyer là où ça fait mal. Je vais appuyer là où ça fait mal. Es-tu toujours prêt à aimer la même chose ? Si oui, alors c'est mon cœur à moi qui sera tranquillisé. Tu as la capacité de tranquilliser les cœurs des croyants. Moi, j'ai besoin que tu tranquillises le mien, Paul lui dit. Il utilise le même terme. Es-tu prêt à accueillir comme un frère celui qui t'a volé, celui qui t'a trahi ? Est-ce que tu es prêt à voir celui qui est esclave aux yeux humains comme ton frère aux yeux de Dieu ? C'est tout ça que Paul demande à Philémon. Est-ce que tu es prêt à ne pas faire de différence, de distinction ? Es-tu prêt à lui pardonner et à l'aimer ? Il faut bien comprendre qu'un esclave n'avait aucune valeur. Un esclave, c'était comme une marchandise. Il était la propriété d'un maître. On pouvait l'échanger, on pouvait le vendre. Et puis s'il faisait du tort, le maître avait même le droit de le condamner à mort. Il avait droit de vie ou de mort, finalement, sur son esclave. Donc imaginez ce que Paul demande, parce qu'il est certain que Onésime méritait, on se comprend, cette sanction-là, parce qu'il avait quitté son maître, il avait fui, et il lui avait certainement volé. Et là, Paul lui demande de l'accueillir. C'est tellement difficile, humainement, énorme. Moi, je vous pose la question ce matin, si j'appuie là où ça fait mal, est-ce que vous êtes toujours les mêmes ? Est-ce que vous êtes toujours prêts à aimer la même chose ? Est-ce que vous êtes toujours plein d'amour comme vous l'êtes ce matin, souriant ? On s'aime les uns les autres. Mais si je viens toucher là où ça fait mal, et c'est là que Dieu veut nous amener ce matin. Vous avez peut-être déjà rencontré des gens, moi j'en ai déjà rencontré comme ça, ils sont super, ils sont rigolos, on a du plaisir à être ensemble. Puis d'un coup, on dit un mot, on vient sur un sujet, et ça change, ça tourne. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglé. On voit qu'on a mis le doigt à un endroit, humainement on aurait dit, j'aurais mieux pas touché, j'aurais pas voulu venir sur le sujet. Des fois même, on sait qu'il ne faudrait pas venir sur ce sujet avec des personnes. Parce que ce n'est pas réglé, c'est pas prêt. C'était peut-être le cas de Philémon d'ailleurs. Donc cet homme a la capacité de consoler, la capacité d'aimer des personnes en détresse, d'apaiser les cœurs, accueillant. Mais peut-être que quand on lui parlait d'esclave, il s'énervait. Peut-être que quand il pensait à Onésime, il disait « Attends seulement, si je le chope, celui-là, il va payer cher. » Puis le reste du temps, c'est « Ah, oh, mes frères, mes sœurs !» Je suis tellement content que vous soyez dans ma maison, on va louer le Seigneur ensemble. Oui, mais il est où Onésime ? Ah ! Tac, ça tourne. On ne sait pas. Mais ce qui est certain, c'est que Paul croit qu'au nom de l'amour, verset 9, au nom de l'amour, Philémon devrait accueillir cet homme, non plus comme un esclave inutile, mais comme un frère en Christ du nom d'Onésime. Et là, Paul utilise un petit jeu de mots qu'on ne voit pas dans le français, mais Onésime veut dire utile. Et de nouveau, il veut lui donner une autre valeur. L'esclave inutile devient frère, devient fils de Dieu, au même titre que Philémon, devient utile. Il retrouve toute sa valeur, la valeur que Dieu lui a donnée. Si nous laissons l'amour de Dieu se déverser dans nos cœurs, nous réalisons que l'amour n'a pas de barrière. Au contraire, je crois même, et retenez bien ça, l'amour abat les barrières. L'amour fait tomber les barrières. Peu importe d'où tu viens, peu importe qui tu es, ton diplôme, ton salaire, ton look, l'amour abat les barrières. Et même si tu m'as fait du tort, l'amour couvre une multitude de fautes. Vous le croyez ça ? Alors ce matin, j'aimerais vous encourager à faire ce pas de plus. Choisir le bon ADN. Laisser son amour enlever nos barrières, nos œillères parfois, afin qu'on puisse aimer même quand c'est difficile. Aimer là où ça fait mal. Peut-être que tu n'arrives plus à aimer cette personne qui t'a dit des choses méchantes, qui t'a critiqué devant tes collègues. Tu te sens tellement seul et rejeté dans ton lieu de travail parce que quelqu'un a dit des méchancetés, des faussetés sur toi. Je mets le doigt où ça fait mal. Le Seigneur veut te demander un pas de plus avec cette personne. Peut-être que tu n'arrives pas à aimer cette personne qui est tellement différente de toi, tu ne la comprends pas, une culture différente, une manière de vivre différente. Le Seigneur te dit, accueille-la, comme si c'était moi. Aime-la. Peut-être que tu as été trompé, la confiance a été rompue, tu n'arrives plus à aimer. Le Seigneur t'encourage ce matin, je suis avec toi, on va faire un pas de plus. Peut-être qu'on t'a inculqué tellement de préjugés que tu n'arrives juste pas à aimer. Les personnes ne sont jamais assez bien. Tu n'arrives pas à faire ce pas de plus parce que tu as des idées préconçues, des préjugés. Le Seigneur veut faire tomber cette barrière dans ta vie pour que l'amour puisse couler. Et pour Philémon, comment cette barrière est tombée? Comment a-t-il pu faire ce pas supplémentaire? Il a dû passer par le pardon. Le non-pardon, c'est une barrière à l'amour, c'est sûr. Alors que le pardon, c'est une marque d'amour. Je le libère. Je libère cette personne. Je choisis de l'aimer. Je choisis l'amour et non le ressentiment. Peut-être que ce matin, tu dois commencer par pardonner. Toujours en lien avec l'amour, j'aimerais aussi relever l'attitude de Paul dans cette lettre. Paul est l'exemple de cet amour agapé. Paul qui agit comme Jésus l'a fait pour nous. Il est dit au verset 10, il parle d'Onésime comme son enfant. Imaginez, il parle d'Onésime comme son enfant, son fils. Verset 12, il est une partie de moi-même. Waouh ! Onésime, un esclave. Non, c'est mon fils, mon enfant. Une partie de moi-même. Verset 16, c'est un frère bien-aimé. Puis il dit, accueille-le comme si c'était moi. S'il t'a fait du tort ou te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. On a un peu l'impression de lire la parabole du bon samaritain. Paul prend soin d'Onésime, un esclave en fuite, mais il ne regarde pas son statut, il ne regarde pas sa situation, il le considère. Il le considère même comme une partie de lui-même, un fils. Il est prêt à payer pour lui, à payer sa dette. Celui, comme je l'ai dit, qui était inutile est devenu, suite à sa conversion, utile. Et Paul va s'investir pour cet homme. S'il t'a fait du tort, il te doit quelque chose ? Mets ça sur moi. Waouh ! Comme Jésus l'a fait pour nous. Alors ce matin, nous pouvons être Philémon peut-être. Peut-être que tu es Philémon, puis le Seigneur te demande d'aimer un peu plus, de pardonner, de laisser tomber tes barrières, peut-être des barrières sociales, pour accueillir celui qui t'a fait du tort, comme un frère en Christ. Mais nous pouvons aussi être Paul ce matin. Être ce Paul pour un Onésime. Et je suis conscient qu'il y a plein d'Onésimes ici et à l'extérieur. Des femmes, des hommes qui sont des fugitifs. Ils fuient des situations de souffrance. Est-ce que vous les voyez, ces gens-là, qui fuient, qui n'en peuvent plus? Ils ne savent plus vers qui se tourner. Ils ne savent plus leur utilité. Ils sont inutiles aux yeux de la société. Ils ne savent plus. Est-ce que j'ai encore une utilité? Est-ce qu'il y a encore un sens à ma vie? Alors nous pouvons être comme Paul et les conduire vers Jésus. Ce Jésus qui redonne une nouvelle identité, qui transforme nos vies. Peut-être qu'il y en a dans cette salle des Onésimes. N'hésite pas, tout à l'heure tu viens, on prie pour toi. On va t'amener à Jésus, qui va changer, qui va te transformer. Nous pouvons être des Paul et investir pour ces personnes du temps, de l'argent, et puis notre réputation aussi, à cause de l'amour. Paul, il a toute une réputation, mais il n'a pas hésité à écrire à Philémon, à s'investir personnellement. Est-ce que tu es prêt à aller jusque-là, par amour pour un frère? En tout cas, jusqu'où es-tu prêt à aller? Seigneur demande un pas à Philémon, et puis Paul a aussi dû vivre quelque chose. Paul a aussi dû faire ce pas. Alors, on ne connaît pas la fin de l'histoire, mais on sait en tout cas que Paul a envoyé Onésime à Colosse, accompagné de Tychique. C'est dans Colossiens 4, versets 7 à 9, où il est fait mention de Onésime qui est envoyé à l'église de Colosse. Donc, on comprend bien que vraiment, il y est allé. Et peut-être bien, certainement, donc, que Tychique et Philémon étaient porteurs de cette lettre-là, puis de la lettre aux Colossiens. D'accord ? Donc, vous savez, la poste là-bas, ça ne marchait pas très bien. Hein ? Donc, Paul envoie ses collaborateurs avec les lettres. C'est même possible, donc, que Onésime ait donné de main propre cette lettre à Philémon, que Philémon l'a lue devant Onésime, on ne sait pas. Mais si cette lettre est dans la Bible, on peut bien penser qu'il y a eu réconciliation. On peut bien la saisir pour nous, puis dire oui, il y a eu réconciliation. Philémon a fait ce pas d'aimer encore un peu plus. Ce matin, je ne vais pas aller plus loin, j'aimerais juste vous demander ça. Ce matin, êtes-vous prêt à vous engager devant Dieu à faire ce pas d'amour? Moi, je ne connais pas votre situation, mais imaginez que je vienne avec une lettre devant vous et la demande qui correspond exactement à votre situation, la demande qui touche là où ça fait mal. Est-ce que ce matin, tu es prêt à dire oui? Est-ce que ce matin, tu es prêt à faire ce pas d'aimer encore un peu plus? C'est possible que pour certains, ce soit encore trop tôt. Puis le Saint-Esprit ne va pas vous brusquer. Le Saint-Esprit fait tout dans les temps parfaits. Mais laissez justement l'Esprit travailler votre cœur face à cette question. Ok, je ne suis peut-être pas prêt aujourd'hui, mais je ne veux pas mettre la chose de côté. Je ne veux pas juste oublier ce qui me fait mal. Je veux y travailler avec toi, Saint-Esprit. Je veux aller de l'avant. Amen.